L'erreur est urbaine sur 48 FM, c'est votre émission qui parle de ville et d'architecture et de géographie, et on le mélange le tout aujourd'hui avec notre thème particulier, ville et vivant. L'erreur urbaine, c'est aussi une émission en partenariat avec Urbagora, donc forcément on parle de ville dans toutes ses formes et on essaie de la défendre pour qu'elle soit plus cohérente, qu'elle puisse parler à tout le monde et notamment aux vivants, faune et flore compris. Au menu de ce jour, on est pas mal dans notre studio virtuel. On a repris notre distance. Malheureusement, le gouvernement nous a obligés à faire notre émission à distance. Et en plus, on était nombreux. Donc, je pense que même dans le studio, on aurait été un petit peu serré, mais c'est pas grave, on est quand même là. On se retrouve après un mois, une belle pause. Vous nous avez manqué, chers auditeurs, mais on est de retour au mois d'avril avec ce printemps. Enfin, on n'est plus sûr si on est au printemps ou de nouveau en hiver. Mais en tout cas, on est bien au chaud, chacun chez soi. Et on retrouve donc dans cette émission pleine, je pense, de personnes. On a Baudouin qui est avec nous. Bonjour Baudouin.
Salut.
Il y a Jojo également qui nous a mis un magnifique décor sur notre Skype. Salut Jojo.
Bonsoir.
Il y a qui d'autre? Il y a Diana aussi qui est avec nous.
Bonsoir, bonjour, bon midi, bonne journée.
Salut Diana, merci d'être avec nous. Et on a qui j'ai pas présenté, il y a Gilles qui nous rejoint.
Salut à tous.
Gilles, notre cher ami également qui travaille à Urbagora et qui va faire sa première chronique dans cette émission, et également Clem qui est avec nous.
Salut.
Salut Clem, merci en tout cas d'être avec nous. Je crois que j'ai présenté tout le monde, j'ai oublié personne.
Je ne sais pas si je suis personne ou pas, mais...
Si, justement, Aïlois, et je ne l'avais pas présenté parce que ça tombe bien, c'est lui, comme d'habitude, maintenant, ça fait quelques mois qu'il a pris le pli de commencer en premier avec sa
Exactement.
Chronique. Aujourd'hui, petite réflexion sur la gastro-économie, c'est ce que tu vas nous présenter. Je sais pas
c'est ce que j'ai inventé, oui.
Nouveau terme de notre socio-architecto-urbaniste Eloi, on te laisse la parole, on t'écoute.
Oh là là, ça en fait beaucoup tout ça. Bonjour à tout le monde. Et donc aujourd'hui, on parle de ville et de vivant. Ville et vivant. Alors pour parler de cette ville vivante, il m'a semblé intéressant de la comprendre aujourd'hui, dans ses dernières actions, ses derniers gestes. Car oui, si l'on veut lui accorder une attention particulière, il est peut-être préférable de lui parler directement et d'en savoir plus sur son état complexe. Évidemment, il est également important de choisir sa ville, celle que l'on pense approcher et connaître un peu mieux qu'une autre. Vous ne douterez donc pas que cette magnifique liégeoise s'est mise au premier rang. Eh bien oui, Liège est vivante, et d'ailleurs je ne sais pas très bien s'il faut lui accorder le « il » ou le « elle ». Ce qui est sûr, c'est que Liège se porte et se comporte. Notamment ces derniers temps, comme tout le monde le sait, le méchant virus entre nos quartiers et se déplace tel le monstre des sous-terrains de la ville. On a d'ailleurs pu remarquer quelques éléments nouveaux dans la ville, des étonnants balais diurnes comme nocturnes, de bonshommes en orange ou en bleu, parfois en noir, avec des sacs en forme de cube dans le dos, armés d'un scooter, d'un vélo ou une autre chose qui permet de rouler, une roue animée peut-être, et portant des petits sachets cartonnés aux quatre coins des rues. Alors je parle évidemment des livreurs, on les a tous vus, on les a tous peut-être contactés une fois, et ce phénomène, bien que connu depuis quelques années, maintenant m'a quelque peu envahi ces derniers temps. Je n'avais jamais vraiment pris conscience que la ville pouvait changer si vite, non pas comme une crise d'adolescence, mais bien comme un nouveau déguisement, surgissant d'une envie soudaine, d'un autre soi. C'est vrai, au fond, cette ville ne vit pas toute seule. Nous en sommes l'énergie, en quelque sorte, nous sommes ses cellules, et elle est notre autre, notre corps. C'est donc ce phénomène du tout à la livraison qui s'est emparé de la ville ces derniers temps. Un phénomène comportant de nouvelles cellules, des cellules qui transportent des nourritures et vivres à d'autres cellules moins mobiles, logées dans certains organes de la ville, C'est donc en apportant ces différents nutriments, en empruntant artères et ruelles, que Liège s'est muni de nouveaux globules. Cependant, j'ai bien peur que cette nouvelle stimulation soit un grand craquage, un réel shot qui ne fait que repousser les désirs de consommation de nos chères villes. Bien que les cellules transporteuses soient demandeuses de pouvoir se sentir vivre ou survivre avec ce job intense et demandé, je pense que Liège est un peu malade. Personne ne saura le dire. Peu de médecins existent pour soigner les villes, mais tout ne tourne pas rond. Certes, le travail se présente et permet de nourrir les cellules transporteuses de nourriture, après que celles-ci aient nourri les autres cellules, bien entendu. Il est important de questionner les quelques enzymes qui, à cause du méchant Covid, se sont vues devoir fermer leur boutique et trouver des alternatives. Parfois porter la confiance à ces nouveaux travailleurs mobiles, parfois se consigner à arrêter leurs activités. Cette ville est malade et par conséquent, elle nous prouve qu'elle est bien vivante. Elle s'est vue fonctionner différemment en un temps trop court pour elle, je pense. Elle est encore sensible aussi, je ne sais pas si elle est prête pour ce changement radical. Comme tout paradigme, les séquelles sont souvent présentes pour un bien ou pour un mal. Si personne ne s'y retrouve, si les cellules ne sont pas satisfaites, tant bien celles qui ouvraient leur boutique que celles qui livrent et celles qui reçoivent les denrées, ce phénomène m'a étonné. Je me suis retrouvé à voir des rues entières composées de ces personnes qui livrent et qui survivent par la même occasion, de ne plus voir des êtres vivants l'hôte qu'est la ville, se déplacer, mis à part des gens dont le travail, c'est la ville. Je vous avoue un peu être perdu là-dedans et de ne plus trouver ces ruelles remplies de différences. En voyant cette ville qui vit dans ses murs et qui travaille dans ses rues sans aucune liaison. Alors pour finir, je ne sais pas, faut-il chercher un médecin de la ville, lui faire confiance en plaçant toute notre importance dans son savoir et son pouvoir émancipateur, ou finalement en la laissant se transformer au risque qu'elle se tourne vers un jeu dont elle n'a pas appris à lire les règles. Évidemment, ce n'est pas la faute des livreurs, ni celle des livrés, ni celle des cuisiniers, et finalement, ce n'est pas non plus la faute de la ville, et par ailleurs celle du méchant Covid. Il est certain qu'il a été la rampe de lancement de cette transformation gastro-économique si rapide. Mais finalement, il aurait pu s'agir d'un autre méchant, du moindre petit élément pour faire osciller Liège. Et c'est ce qui prouve que le fil est très peu épais et que nos sociétés sont fragiles. Malgré ça, elle tient bon. Ces monuments sont toujours là. Le tram arrive. Ces parcs se remplissent périodiquement. La Meuse se dirige toujours vers Maastricht. Cela va. Son corps va bien. Notre autre se porte convenablement. Comment comprendre tous ces tracas dans ce cas? Et si le médecin devait changer d'échelle et accorder son attention sur ces petites cellules qui se vivent de la ville? Est-on nous-mêmes malades? Merci.
Et merci Eloi pour cette chronique, merci beaucoup d'avoir au final bien... Je ne pensais pas que quelqu'un allait prendre ce parti-là de ville et vivant, en fait, la ville et ce cœur vivant que tu décris, et nous en sommes les cellules, une très belle métaphore en tout cas, merci beaucoup, avec des personnes auxquelles effectivement on voit un peu plus désormais... la place, ces livreurs, ces personnes qui continuent de faire leur travail pendant que beaucoup d'autres se sont arrêtés, notamment les commerces, certains non essentiels. C'est chouette, c'est important de le rappeler et de dire au final, comme tu le dis, que la ville s'adapte, un peu malheureusement aussi. On a envie de la voir vivre comme elle était avant, qu'elle se rétablisse. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup pour cette chronique. Je laisse peut-être d'autres parmi les personnes présentes si vous souhaitiez rajouter quelque chose.
Éloi, toujours aussi poétique.
Ah, je ne changerai pas.
On n'a pas grand-chose à ajouter hein, avec un si beau texte.
C'est vrai. Je pense que c'était en tout cas un plaisir. C'est un plaisir de te retrouver avec après notre mois de pause, ça avait manqué et cette fraîcheur pour pour lancer pour l'émission. Aussi. Donc, ça fait plaisir. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres interventions que si ce n'est celle d'adouber notre cher Éloi pour cette saison qu'il anime d'une très grande justesse, je vous propose d'écouter donc notre premier intermède musical. C'est un truc qui bouge, c'est The White Stripes, c'est Conquest, tout de suite sur 48FM. À tout de suite. L'erreur est urbaine sur 48FM en coopération avec l'association Urbagora. C'est un samedi sur deux, sauf le mois dernier où malheureusement on a pris une petite pause hivernale pour revenir avec le printemps. On parle aujourd'hui avec notre thématique ville et vivant, de la faune, de la flore et comme Éloi nous l'a présenté en début d'émission, également de cette ville vivante qui est un petit peu malade actuellement et que l'on tente de rétablir. Il y a d'autres parties, pas uniquement la ville, on parle aussi du territoire plus largement. Et je crois que Clément, qui est notre invité, peut-être qui reviendra, je l'espère en tout cas, qui vient pour la première fois dans Inch'Allah. L'émission et qui, Inch'Allah, qui nous présente une autre maladie, je crois, une autre partie du territoire qui est tombée malade, mais je te laisse plutôt la parole pour nous le décrire.
Merci Alex. Donc moi je vais vous parler un peu de la ZAD d'Arlon et de sa récente expulsion, donc j'écris un petit texte à ce niveau-là. Premièrement, je voudrais d'abord dire que je ne suis pas un zadiste d'Arlon, je ne me considère pas comme ça, même si on a l'habitude de dire que la ZAD est partout. Donc je ne vais pas du tout parler au nom de la ZAD d'Arlon, mais je vais plutôt parler de ce qu'elle a fait vibrer chez moi, quoi. Donc voilà. Donc j'ai eu du mal à écrire ce texte, pour une fois. Souvent, quand on a du mal à remplir la page blanche, c'est que les mots ne viennent pas à l'esprit. Dans ce cas-ci, c'était l'inverse. Trop de mots qui viennent en tête, trop de raisons d'être en colère, trop d'arguments pour défendre la zone à défendre, trop de légitimité à opposer à cette soi-disant légalité, car dans le sens du droit se cache souvent celui de la droite. Trop de beauté dans un seul lieu, trop de zèle et de cupidité dans les mêmes corps, toujours les mêmes corps, car oui, évidemment, ils ont osé. Ils ont osé expulser de nuit, appuyés par des blindés, encadrés par 150 policiers et des troupes d'élite de la police fédérale armes au poing. Cela même qu'on utilise pour lutter contre le terrorisme. Ils ont osé expulser ces 9 militants écologistes, dans une débauche de moyens et de violences symboliques dignes d'une déclaration de guerre aux vivants. Car oui, sur place, les zadistes, les riverains, les soutiens, protégeaient physiquement une zone naturelle, nommément l'ancienne sablière de Chopac, à quelques kilomètres du centre d'Arlon, dont 8 des 31 hectares avaient été reconnus sites de grand intérêt biologique par la région wallonne. Au cours des derniers mois, sur ces 31 hectares de nature florissante, plus de 250 espèces différentes de végétaux, d'amphibiens, d'oiseaux, d'insectes, de mammifères, dont plusieurs protégés ou en voie d'extinction, y avaient notamment été observés. Cet espace était donc physiquement co-occupé, sous forme de zone à défendre, de ZAD. Parce que depuis des années, les moyens entre guillemets « légaux » n'avaient servi à rien, comme souvent. Les pétitions, les interpellations au conseil communal, les mobilisations citoyennes n'avaient eu aucun impact sur le choix de quelques décideurs de transformer cette zone en zoning entre guillemets « artisanal », c'est-à-dire en fait un zoning industriel à l'ancienne, où le béton coule à flot, étouffant toute la vie du sol, détruisant les zones marécageuses, si riches en biodiversité, asphyxiant les végétaux, repères des hérissons et des chevreuils, ne laissant plus aucune place aux feuillus, réceptacle des nids du rouge-gorge et du milan noir, écrasant les prairies sèches aux orchidées et papillons protégés. Mais se prétendant bien sûr éco-responsable, car on y ajoutera 2 pelouses bien taillées et 4 panneaux solaires pour bien greenwasher le terme historique de zoning industriel qui lui n'est plus vendeur. Les mêmes qui vendent l'illusion sémantique du développement durable ou de la croissance verte comme solution à la crise systémique que nous connaissons. Ils ont osé. Alors que l'artificialisation des sols a été reconnue dans le dernier rapport national sur la biodiversité comme la première cause de perte de cette biodiversité en Belgique, entraînant la destruction, la dégradation et la fragmentation de tous les types d'habitats, alors que ce même phénomène d'artificialisation des sols a augmenté de plus de 30% en Wallonie depuis les années 80, alors que 80% des insectes ont disparu en Europe lors des 30 dernières années, alors qu'en 15 ans le nombre d'oiseaux des campagnes a diminué de 47% en Wallonie, alors que toutes les semaines, des rapports scientifiques toujours plus alarmants tombent, rappelant la nécessité première de changer de paradigme et de revoir profondément les relations avec l'environnement, avec le vivant, ils ont osé. Ne prenant en compte aucun de ces éléments, si ce n'est qu'à travers un greenwashing flagrant et des éléments de discours, le pouvoir économique capitaliste a continué inlassablement sa marche forcée vers le profit et vers une illusoire croissance économique, comme seul et unique horizon indépassable, en dépit des milieux et des hommes qui l'exploitent et détruisent. La ZAD, c'était des corps et des convictions contre ce vieux monde, des âmes animées par la nécessité de tout réinventer pour mieux vivre ensemble, de se confronter pour détruire leur destruction, parce qu'on ne peut plus faire autrement, parce qu'ils ne nous laissent plus le choix, parce que nous n'avons plus le temps. Et puis sous les cagoules, ce sont vos enfants, pouvait-on lire sur des banderoles. Car dans le cœur de toute une jeunesse, cet endroit était un espoir, un lieu de réinvention, un lieu de réenchantement, une fissure dans le système. Parfois même pour ceux qui n'y avaient jamais mis les pieds. Dans le fond de la tête, c'était une forme de soupape matérialisée, prouvant qu'un autre monde est possible, à qui ose, qu'une autre manière d'être vivant, avec le vivant, est envisageable. Pour certains, exclus de la société par ce système violent et si peu altruiste, cet endroit était même un refuge. Quoi qu'il soit arrivé, la ZAD aurait été un formidable incubateur d'engagement, en pratique et dans l'imaginaire collectif. Il aura permis à tellement de personnes de prendre conscience de leur force dans l'action commune et des possibilités de créer et de vivre une parenthèse qui sorte du cadre dominant. Et ils ont osé détruire tout ça. On se souviendra qu'au beau milieu d'une crise sanitaire, causée par la destruction du vivant, l'État n'aura rien trouvé de mieux à faire que de faire taire celles et ceux qui le défendent coûte que coûte. Celles et ceux qui, pendant un an et demi, ont été des protecteurs et des protectrices du véritable commun, au-delà des discours écologiques de façade et de salon portés par nos chers gouvernants. Quand le système capitaliste et ses pions auront complètement mangé la terre, tarit les rivières, détruit les derniers habitats où la biodiversité pouvait encore prospérer. Il est intéressant de se demander quelle place donneront les potentiels livres d'histoire à ces héros et héroïnes du quotidien qui, face à l'adversité, face à la répression d'État, face aux machines destructrices, face au mépris d'une partie de la presse traditionnelle, ont mis leur corps et leurs maigres moyens en opposition pour sauver ce qu'il reste à sauver. Espérons qu'en 2100, il y aura des monuments en hommage à ces luttes et que les enfants d'alors étudieront ces récits comme nous avons étudié sous un prisme semi-héroïque ceux de la résistance au fascisme. Et comme le disait Pablo Neruda, ils peuvent couper toutes les fleurs, ils n'empêcheront jamais, au grand jamais, le printemps. Parce que plus que tout, la ZAD est partout. Voilà.
La ZAD est partout. Merci Clem. Merci beaucoup pour ce texte qu'on on sent ému. Et je pense que tu étais loin d'être le seul à t'en être ému. On pense en tout cas à tous ceux qui ont participé, qui ont fait cette ZAD d'Arlon. Ils existent toujours, la ZAD n'existe plus, mais ils sont toujours là. Et comme tu dis, ça crée des envies, des idéaux, et qui se retrouveront ailleurs. Du moins, j'y pense, j'y crois. On pense pas uniquement à la ZAD d'Arlon, il y a eu pas mal de démantèlements ces derniers temps. La ZAD de Gonesse, ZAD du Carnet. Voilà, en France, en Suisse, en Belgique, on démantèle, mais les forces sont toujours là. Donc la ZAD d'Arlon qui a été démantelée donc, par la police fédérale le 15 mars dernier. La résistance continue, la résistance s'organise pour continuer à préserver ce qui nous reste vivant, pour éviter de bétoniser le tout. Merci beaucoup, Clem. Je ne sais pas si d'autres voulaient peut-être rajouter un petit mot à ce que Clem a dit.
Bah, comme toi, au final, Alex, c'est juste un merci Alex, à Clem qui nous fait son entrée tout en poésie, hein, un petit peu comme Edouard Luton, et qui met de l'éloquence sur des choses qui sont difficiles à exprimer et qui y a pas grand monde au final qui ait donné des plateformes pour défendre ce genre de mouvement, parce qu'au final, à l'extérieur, on prend une photo et ça passe assez rapidement. Je pense que pour prendre le temps de parler un petit peu et de sensibiliser les gens, c'est important. Donc, merci.
Merci. Merci pour ta réponse, ça fait super plaisir.
Merci Clem, en tout cas. Je ne sais pas si tu as entendu ou tu as suivi peut-être par la suite ce qui a été donné de la ZAD d'Arlon et peut-être d'autres actions qui s'en suivaient. Je sais qu'il y a eu des manifestations à Liège et à Arlon qui ont suivi le démantèlement. Je ne sais pas s'il y a un projet peut-être qui commence à se construire derrière
alors,
ça.
Alors en fait, je pense qu'il y a un gros point, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens en fait, qui soutenaient cette ZAD et qu'il y a une forme de... Ouais, d'émergence de tout un mouvement autour de ça. Et donc, on a vu des rassemblements un peu partout en Wallonie. Il y a eu beaucoup de banderoles partout. Il y a eu, quand on voit, en fait, même sur les réseaux sociaux, c'est con, mais on a quand même vu un soutien écrasant dans les commentaires à cette initiative. Et on va dire que l'action de l'État et l'action de la commune d'Arlon et de Idelux, pour ne pas les nommer, ont été quand même pas mal critiquées. Après, à côté de ça, et je ne veux pas donner des mauvaises nouvelles, mais c'est le cas, Idelux, donc l'intercommunal qui va construire ce zoning, a complètement rasé le site, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières photos, mais il y a des photos qui ont tourné, et voilà, le site a été tout à fait rasé ici, donc les 31 hectares de forêt ont été tronçonnés, ont été abattus ici sur les derniers jours, et donc ça a fait énormément parler dans la région d'Arlon. Et voilà, notamment parce qu'on est en pleine période de nidification, on est en pleine période où la vie reprend. Il y a énormément d'images qui tournent, par exemple, de nids qui sont à terre et d'oiseaux qui tournent dans le ciel et qui ne savent plus où aller. Donc, ça a été un choc, je crois, un deuxième choc après l'expulsion. Et donc, voilà, un choc de voir qu'en fait, ils ont été jusqu'au bout, malgré tout. Voilà.
La bétonisation continue. En tout cas, on fait un gros bisou Covid-2 à Idelux et à son bourgmestre Paul Magnus, en espérant
Vincent.
Vincent Magnus. Vincent, pardon. Papa Vincent Magnus. Et on espère que peut-être, comme tu le dis, il y a eu pas mal de gens qui ont suivi ce projet-là, qui ont suivi la ZAD, qui l'ont soutenu. Ça n'est pas arrivé jusqu'au bout, mais peut-être peut-on espérer, en tout cas par la suite, que... Parce qu'il y a plein de projets, en tout cas, qui se poursuivent, qui veulent... On pense à Alibaba, mais il y en a beaucoup d'autres dans la région de Liège et partout en Wallonie et en Belgique. Et peut-être que les énergies vont à nouveau se concentrer pour défendre ces terres et défendre cette nature qui est bien fragile en ce moment. Merci beaucoup, Clem, pour ta chronique. Je fais peut-être juste une petite aparté pour rappeler que tu es aussi... on sent ton éloquence, elle ne vient pas de nulle part, n'est-ce pas, puisque tu as également ton propre média. Je te laisse peut-être le présenter. On parle forcément d'irruption.
Mais j'étais pas prêt à ça. Mais,
je sais.
Mais, merci, Alex. Mais... Ouais, bah sinon, à côté de ça, j'ai lancé avec quelques potes l'initiative de projet médiatique Irruption, et donc on essaye de mettre en lumière les luttes sociales, environnementales à travers la vidéo, donc sur les réseaux sociaux. Et donc par ce biais-là, on a couvert deux fois la ZAD. Et voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur Facebook et sur Instagram pour aller voir les réalisations. Et là, on parle pas mal notamment de la culture, et on a sorti quelques vidéos sur l'occupation de la monnaie, donc aussi force... tout le secteur culturel actuellement, et notamment à l'occupation du théâtre de la Monnaie, qui est assez historique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Voilà. Donc, Irruption, web média engagé. Je fais un peu de pub. Voilà.
Merci pour ta pub, on t'en fait. C'est avec plaisir. On suit donc Irruption, web média engagé sur Facebook et Instagram. On relaiera ça également, forcément, sur la petite page Facebook. Nous, on fait aussi notre appel, on fait aussi... notre relais, l'erreur est urbaine sur Facebook. Vous retrouvez l'émission sur 48FM et bien entendu sur Facebook et sur le site internet d'Urbagora. Merci beaucoup donc pour cette chronique engagée comme le média et comme le veut aussi l'erreur est urbaine. En attendant, on se fait une petite pause musicale. Cette fois-ci, on part sur un truc oublié. Les quatre barbus, c'est le temps des cerises. On reste un peu dans l'idée de résistance, puisque c'est sur l'album La Commune de Paris. J'espère que vous allez apprécier ce morceau. On l'écoute tout de suite. On se retrouve pour notre deuxième partie juste après ce morceau. À tout de suite.
Quand nous chanterons le temps des cerises, et guerres signales et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant le corail qu'on cueille en rêvant. Temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde. nos cœurs.
L'erreur est urbaine sur 48FM en partenariat avec l'association Urbagora. L'erreur est urbaine, c'est l'émission un samedi sur deux de 10h à midi. Et on parle de ville, d'urbanisme, d'architecture et de territoire plus largement. Aujourd'hui, on parlait plus particulièrement de ville et vivant. On a parlé de la ville vivante comme un corps. On a parlé de ceux qui chassent le vivant du côté de d'Arlon, qui démantèlent la ZAD d'Arlon. Et on va parler peut-être encore d'une autre thématique. On est toujours dans le même sujet, mais peut-être avec un autre regard. C'est le regard de Gilles qui nous offre aujourd'hui sa première chronique. Merci à toi d'être avec nous. Bonjour Gilles, je te laisse la parole pour nous présenter ton sujet.
Merci et salut à tous les vivants. Donc. Sur le thème de l'émission d'aujourd'hui, Ville et vivants, j'aurais pu laisser ma pensée dériver pendant des heures et des jours même, ce que j'ai un peu fait pour essayer de faire ce texte, mais on aurait pu espérer que de mettre un titre à ma chronique m'aide à canaliser un peu mon propos, mais j'ai pas vraiment réussi à me décider entre, disons, le retour du sauvage en ville ou, plus pédant, la nature férale dans un monde urbanisé. Indécision ou ambiguïté volontaire pour poser des questions plutôt que d'y répondre, j'aurais tendance à pencher pour la deuxième solution. Toute la question par rapport à ces titres, c'était sur les mots à utiliser. Qui ont chacun des sens multiples, des connotations positives ou négatives en fonction de la personne qui les emploie. Et donc, je vais commencer par un peu les décortiquer. Je trouvais ça important dans le thème de l'émission ici. On va commencer par un gros morceau, la nature. Est-ce que la nature, c'est le joli monde des petites fleurs et des oiseaux qu'il faut aimer et protéger ? Ou est-ce que c'est un concept qui, comme le dénonce Philippe Descola et ses suiveurs, constitue le point de départ, à proprement parler, de la séparation de l'homme et de son environnement ? Selon eux, l'idée de nature, dont l'homme ne fait pas partie du coup, sert de base à une ontologie qui permet la domination du reste du vivant et l'exploitation d'un monde qui n'est vu que comme ressource. Un concept et une manière de voir le monde qui est d'ailleurs absente chez pas mal de peuples dits « sauvages », bien plus conscients de leur imbrication dans la trame du vivant que nous. Pour faire référence aux zadistes dont Clem parlait tout à l'heure, un de leurs slogans bien connus, c'est « Nous sommes la nature qui se défend ». Et j'ai tendance à suivre Baptiste Morisot, un auteur que j'aime beaucoup, qui préfère à ce slogan choisir de dire « Nous sommes le vivant qui se défend ». Et d'ailleurs, le thème de l'émission, le titre de l'émission d'aujourd'hui sous-entend aussi cette préférence pour le terme « vivant ». Et d'ailleurs, généralement, tout un pan de la pensée écologique actuelle tente de mettre en chantier notre représentation du monde à travers la discussion sur ce terme de nature. Est-ce qu'il faut abolir totalement cette idée de nature ou simplement réinventer notre rapport à celle-ci ? Je vous laisse seul juge. Je vais m'apesantir un peu sur le mot « sauvage » aussi, donc le contraire du « domestiqué », ce qui n'a pas subi l'action de l'homme civilisé. C'est étymologiquement, ça se rapporte aux forêts. Mais dans ce terme, transparaît encore une vision dualiste, une séparation entre la civilisation humaine et la nature, sans nécessairement d'ailleurs mettre tous les hommes du côté de la civilisation. Ils sont assimilés à cette nature indomptée, les peuples considérés comme barbares, voire des comportements sortant du cadre de la bien-pensance, comme récemment dans certains médias et discours politiques de droite. Cet ensauvagement-là en inquiète certains quand il se rapporte à des comportements spontanés, à la libération des affects, à certaines formes d'art non institutionnelles, voire à l'expression d'une révolte. Ce sont probablement d'ailleurs les mêmes pour qui la végétation doit être parfaitement maîtrisée et seuls les animaux de compagnie tolérés. Le sauvage comme une menace ou comme un potentiel de transformation et de pérennité en même temps. Le sauvage comme un état passif ou comme une dynamique dont les contraintes sont autres que celles imposées par la civilisation. Alors, vous avez peut-être entendu dans les titres que je proposais pour ma chronique un mot un peu barbare, l'adjectif « féral ». En fait, le féral, ça se rapporte soit à une espèce domestiquée qui retourne à l'état sauvage, ou à un espace exploité par l'homme et puis laissé à son libre développement par après. Bon, à savoir que plus aucun lieu en Europe, ni probablement sur Terre, n'a été totalement épargné de modifications volontaires par l'homme. Même les forêts tropicales africaines et amazoniennes, archétypes du sauvage, ont été influencées par l'homme avant même l'industrialisation et ses conséquences globalisées. Plus rien donc que la nature domestiquée d'une part et de la nature férale d'autre part, ou plutôt, est-ce qu'il faut penser une échelle de nuances qui vont de l'exploitation à outrance à l'exclusion de toute intervention humaine? Bon, et on a vu aussi une hésitation entre les termes « ville » et « urbain ». En fait, les géographes qui sont parmi nous le savent beaucoup mieux que moi, mais ça recouvre des réalités, pour finir, assez différentes. La ville, on peut tenter de la délimiter, même si les critères de cette délimitation sont sujets à discussion et englobent des territoires différents selon les critères qu'on choisit, justement. Mais la réalité urbaine, elle est aujourd'hui considérée comme concernant l'ensemble de l'humanité, même dans les campagnes reculées, qui sont tout aussi concernés que nous par les modes de vie, de communication, les flux d'énergie et de marchandises caractéristiques de la métropolisation du monde. Donc, est-ce qu'il faut encore... est-ce que c'est utile de faire clairement cette distinction entre ville et urbain? C'est le choix qui est fait chez Urbagora dans tous les débats qu'on a. Mais je vais un peu revenir dans le vif du sujet, si vous m'excusez de m'être égaré dans ces tentatives de définition et les digressions qu'elles ont amenées. Si vous me laissez encore quelques minutes, on va considérer maintenant que chacun comprend ce que j'entends par la place de la nature sauvage en ville. Et c'est bien de ça que je souhaitais parler. Sans du tout me présenter en spécialiste, mais bien en amoureux et en explorateur fervent. Un terrain ou une ruine sur laquelle la nature reprend ses droits, quelques plantes poussant dans les interstices d'un trottoir, d'une dalle de béton, voire d'une façade, croiser un renard ou un blaireau en ville, tout ça me met en joie. Traverser un talus encombré de broussailles et de troncs pourrissants est un jeu auquel je m'adonne volontiers, avec ou sans mes enfants, pour découvrir des espaces qui semblent inexplorés, des interstices où la civilisation relâche un peu son emprise, en son cœur même. La prise de conscience actuelle d'une nécessité de donner une place au végétal dans la ville se focalise souvent sur les questions d'alimentation et de services écologiques rendus par les plantes. L'agriculture en ville ou à sa périphérie doit nous permettre de moins dépendre des flux de marchandises et des nuisances qu'elles induisent. La plantation d'arbres peut atténuer les fortes chaleurs accentuées en ville par la minéralisation. Remplacer des surfaces asphaltées ou bétonisées par des zones plantées devrait diminuer les inondations et l'assèchement des nappes phréatiques en laissant l'eau pénétrer dans le sol. Toutes ces initiatives semblent effectivement indispensables, mais elles peuvent facilement rester inscrites dans la logique dominante de l'exploitation du vivant. alors qu'il me semble tout à fait incontournable de refonder complètement notre rapport au monde, de reprendre conscience de l'interdépendance fondamentale de l'ensemble du vivant. Dépasser même l'idée de prendre soin des êtres non humains pour leur utilité, mais simplement par respect, parce qu'ils sont nos parents plus ou moins éloignés, et pas moins que nous, porteurs potentiels du futur du vivant. Comme la lutte contre d'autres formes d'oppression, donc dans le champ humain, la résistance contre l'asservissement de la nature nécessite elle aussi, et avant tout, de lui laisser la possibilité, les moyens et l'espace d'exprimer sa puissance. La revégétalisation de la ville et de l'espace urbain ne peut plus se penser sur le mode de la maîtrise totale. Bien sûr, il faut des espaces dont la végétation est entretenue pour faire pousser notre alimentation et pour nos loisirs, les parcs et autres. Mais même dans ces espaces-là, qu'ils soient publics ou privés, certaines parties peuvent être laissées à leur libre développement ou gérées le moins possible, sans que ça gêne du tout l'usage premier du lieu, l'usage humain du lieu, donc. Permettre au jardin punk d'Éric Lenoir et au tiers paysage de Gilles Clément de s'épanouir, sans nécessairement soustraire des lieux de toute présence humaine, mais que l'humain y perde son statut de dominant. À chaque fois que c'est possible, dans tous les contextes et à toutes les échelles, laisser s'émanciper les plantes, les arbres, les insectes, les oiseaux et tous les autres vivants. Solidarité avec les sans-papiers et les insectes. Liberté pour les arbres et pour Julian Assange.
Merci beaucoup, Gilles. Merci pour... J'aime bien en tout cas la finalité, liberté... Liberté et égalité entre les différents vivants, effectivement, remettre au final les humains et les autres vivants sur la même échelle. C'est un peu cette opposition entre, effectivement, une vision très, très occidentale de l'exploitation des ressources. L'homme est au centre de tout. Peut-être une vision qu'on peut retrouver dans, comme tu l'as dit au début de la chronique, justement, on parle de sauvage entre guillemets, mais c'est vrai dans certains peuples, notamment amérindiens, où tout est égal à l'homme. Là, et puis la réincarnation fait qu'on fait en sorte de respecter tout ce qui nous entoure, ce qui n'est pas forcément le cas, dans notre vision occidentale. Merci beaucoup en tout cas de nous faire réfléchir là-dessus et sur ce que tu as dit. Je trouvais ça très intéressant sur le fait de l'utilitaire de la nature. Effectivement, on voit de plus en plus cet argument de, ben, en fin de compte, le fait de mettre dans nos villes des arbres, des lieux, des espaces de, entre guillemets, de nature permet justement des villes peut-être plus résilientes. Mais au-delà de ça, c'est aussi pouvoir respecter la nature. Et du coup, on a cette dualité. Je pense notamment à toutes ces politiques qui sont lancées, notamment à Liège, sur la volonté de planter tant et tant d'arbres. On parle de plusieurs milliers. C'est une même politique qu'on voit à Paris, dans plusieurs grandes villes françaises. Mais en fin de compte, on détruit dans le même temps certains espaces de nature. On a à Liège toujours ce questionnement autour de la Chartreuse. On a abattu un arbre, je crois, centenaire à Cointe. Enfin voilà, il y a cette dualité qui rentre en jeu. Et effectivement, peut-être penser les choses différemment peut nous permettre de voir la ville et le vivant différemment. Laisser un peu de lest sur ce qui ne reste plus grand chose, mais en tout cas on a la chance à Liège, je pense, on a une carte qui est éditée par Urbagora qui nous permet de, donc je parle de Liège Orbital, qui nous permet de passer par certains endroits très très différents, très riches, des espaces de nature qui ont l'air encore presque sauvages. Je pense que effectivement c'est essentiel de les préserver. Pardon, je fais tout un exposé, mais c'était pour tout ce dont j'ai pensé grâce à ta chronique. Et je t'en remercie pour cette première. Et je m'arrête là et je laisse peut-être la parole à d'autres peut-être intervenants. On est pas mal aujourd'hui qui veulent peut-être rajouter un mot. Baudouin, Jordan, Diana, Eloi peut-être.
Bah, moi, je vais continuer en te disant toi aussi merci, hein, parce que ça a réussi à me faire voyager du haut de mon fauteuil, parce qu'on ne sort pas beaucoup en ce moment. Tu parles de dualité, de non-dualité, de choses qui peuvent peut-être être plus fluides. Hein, on parle du sauvage dans la ville. Au final, juste replanter quelques arbres et on compte la quantité de nature en nombre d'arbres dans la ville. Et rien que de parler de ces animaux qui n'ont rien à faire dans la ville... Quand tu as parlé d'un renard qui passait, c'est quelque chose d'assez irréel. Hein, au final, de voir ce genre de choses, c'est le sauvage qui n'a pas sa place dans un monde où c'est des forêts de bâtiments qui nous entourent. Donc, ramener un petit peu de nuance et remettre tout ça en question, ça fait du bien. Surtout à un moment où on est tous coincés chez soi.
Effectivement, ça permet un peu de respirer. Et alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait rajouter. Sinon, ça rebondit bien, en tout cas, ce que tu as présenté, Gilles, dans ta chronique, avec la personne que je vais présenter tout à l'heure. Alors, je fais un petit teasing avant de laisser place à la musique et de nous retrouver juste après. On va se balader justement avec le Point Culture et plus particulièrement avec Pierre-Charles, qui est animateur des balades végétales de Liège. Alors, il en a fait plusieurs depuis le début de l'année. Et l'idée est de partir à la découverte justement de ces espaces presque sauvages à deux pas de la place Saint-Lambert. On va l'écouter juste après une petite pause musicale. Cette fois-ci, on part avec Kenny Arcana en plein dans le thème, c'est Nature Sauvage. A tout de suite.
Comme l'eau, libre comme l'air, comme les terres pures, comme le feu, solide comme la terre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme les terres pures, comme le feu, solide comme la terre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme les terres pures, comme le feu. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme les terres pures, comme le feu et solide comme la terre. À la mémoire des nôtres, de nos galères et des potes, des coups de sang énormes, du poids sur les épaules, à la lumière de nos torts, de nos erreurs et des vôtres, à la folie de l'époque, à tous les fruits de nos révoltes, à nos rêves qui se vautrent, au monde qu'on nous a laissé. Dans les tripes de nos âmes blessées, aux notes qui s'endorment, la haine au ventre, nos rêves en forme, à l'air en forme, à fond. Voici que reviennent les sauvages, secouer ceux qui dorment dans leur cage dorée. Nous sommes que nous brisons aussitôt. Nous sommes ce qu'on ne dompte pas, ce qui est crié sur les toits. La vie, la liberté perdue, que la nature reprenne ses droits. Les poumons pleins de rêves, laissez passer les sauvages et au-delà de vos lois. Comme l'amour, comme le temps, comme la mort, comme le vent, comme la vie, comme le grand. Bienvenue dans la création, sachez que ce n'est pas la vôtre. Libre enfant de Dieu, ce n'est pas votre faute. Or que l'on adore sous les canons des ordures. Nous ont mis du plomb dans les ailes, alchimistes, on en a fait de l'or pur. Dites-leur qu'on ne dort plus, que leur monde est tordu. Qu'on évite les torpilles de leur psychique torture. Même si ça vous importune, on porte une cause, ami d'infortune. Déploie tes ailes et deviens qui tu es. Ose, voici que reviennent. We'll be right back.
Retour dans l'erreur urbaine sur 48FM de 10h à midi, un samedi sur deux, sauf le mois dernier, malheureusement, au mois de mars, on est parti en vacances. On revient avec joie auprès de vous pour le printemps, enfin plus ou moins, on se caille un petit peu ces derniers jours, mais on est là au printemps pour parler de ville et de vivant, de faune et de flore. On a on a dépeint pas mal de choses déjà en première partie, que ce soit avec Éloi qui nous a parlé de cette ville vivante justement qui est un petit peu malade en ce moment, mais on espère va bientôt se relever et que le Covid sera peut-être bientôt derrière nous. Et nous avons de l'autre côté parlé de nature avec Clem qui nous a fait une lettre ouverte à la ZAD, pleine d'émotions. Gilles a embrayé en deuxième partie pour nous parler justement du retour au sauvage et du fait de pouvoir préserver certains espaces de nature sauvage et pas forcément planifiés. Et enfin, on a un invité, enfin qui n'est pas avec nous, malheureusement il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais Pierre-Charles nous a accordé une petite interview. Alors Pierre-Charles du Point Culture de Liège est animateur des balades végétales et justement qui nous emmène un peu partout sur Liège pour découvrir cette nature qui est des fois juste sous nos yeux, et il nous prête ses yeux et ses loupes pour partir à la découverte en petit groupe, forcément avec les contraintes sanitaires actuelles, à la découverte de la flore qui pousse entre les pavés, dans les friches de notre cité liégeoise, et plus largement de la nature urbaine et périurbaine. Alors c'est dans une volonté d'apprentissage botanique, certes, mais l'objectif de ce balade, c'est aussi de sensibiliser à l'importance et les vertus de cette flore en ville. Mais Pierre-Charles, donc, nous explique tout ça précisément.
Moi, je m'appelle Pierre-Charles. Je travaille à Point Culture depuis la fin des années 80 au XXe siècle. Hein. Donc j'ai connu l'époque du 33 tours, le passage au CD, les collections. Je me suis beaucoup occupé du rock et des musiques électroniques, expérimentales, etc. Enfin, voilà. Et puis depuis les années 2010, je dirais, on a fait vraiment une transition au Point Culture et enfin, de fil en aiguille. Je suis devenu beaucoup plus médiateur culturel, donc je participe avec mon équipe à l'organisation d'événements culturels tous azimuts, selon des thématiques, parce qu'au Point Culture, depuis quelques années, on a décidé de travailler en réseau sur des thématiques sociétales importantes. C'est mon boulot actuel, quoi, c'est de mettre à jour, de mettre sur pied des événements culturels. On a travaillé sur la ville urbaine, on a travaillé sur nature et culture. Et voilà, je remonte là à 2018-2019, et c'est un peu là l'origine des balades végétales. Si.
Donc justement, c'est dans ce cadre de ta fonction de médiateur culturel que tu organises les balades depuis 3 ans maintenant. Alors ?
Oui, c'est ça, disons que 2019.
2019.
Voilà. Et c'est né comme ça, en fait, parce que on a attaqué la thématique nature et culture où en avril 2019. On a décidé de faire une journée sur la nature en ville et le recyclage, etc. Et donc, c'était une journée d'atelier ici avec plusieurs associations, le CRIE, etc., le CEPAGE. Et des personnes qui venaient donner des ateliers en lien avec la nature et surtout le do-it-yourself. Et moi, je me suis dit, tiens, on a 3 ateliers et j'en ferai bien moi-même, pour une fois, un quatrième. Et donc, j'ai programmé la matinée, comme ça, une première balade végétale et ça a eu un franc succès dans les rues de Liège. Et du coup, j'ai voulu reproduire l'expérience, quoi. La nature m'interpelle depuis très très longtemps et j'ai fait des formations, notamment nature, guide nature au Cercle des naturalistes de Belgique vers 2010. Quoi. Un jour ou l'autre, un jour, je me suis dit, peut-être que maintenant, je vais essayer mon désir, c'est de transmettre un peu ce que j'ai appris, les modestes connaissances que j'ai appris. Et voilà, donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de sensibiliser les personnes, un public urbain, puisque j'habite en ville, à la nature en ville, et notamment aux plantes qu'on peut trouver spontanément entre les pavés, dans les rues, des plantes résistantes, comme je les appelle, spontanées, sauvages, que souvent on ignore, qu'on veut éliminer parce qu'elles sont peut-être moins flash que les plantes horticoles, mais bon, voilà, qui ont toute une raison d'être dans le paysage urbain. Le samedi 3 avril, c'est dans le programme, c'était la troisième balade de la saison et c'est au Thiers à Liège. J'avais vraiment, sur base de mes balades précédentes tout seul, je m'étais rendu compte, évidemment, comme tout le monde, que c'est un quartier particulièrement vert. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai fait un parcours là, qui devait se dérouler en 2 heures pour finir. On a pris tellement de plaisir avec les 4 personnes qui étaient là. Ça a duré jusqu'à 14 heures. Quoi. Puis déjà, pas mal d'années où les gens sont sensibilisés à la nature, notamment en ville. Et c'est pas seulement ici, évidemment, en Belgique, parce qu'il y a une plateforme comme ça, Tela Botanica en France, qui témoigne aussi de cet attrait pour le vivant, la nature en ville. Et donc, je n'ai pas vraiment remarqué un changement parmi... Donc, le public, c'est un peu le même que celui qui venait il y a 2-3 ans. Simplement, voilà, là, on est obligé de restreindre à 4 personnes. Et donc, c'est fatalement un peu triste parce que normalement, les bonnes années... les bonnes années, ça allait de 10 à 15 personnes. Je crois qu'il y a, de toute façon, une lame qui est de fond qui est importante parce qu'on parle de plus en plus de chute de la biodiversité et des pollutions et d'une envie de transition, d'une envie d'un bien-être en ville, que ce sont des choses qui font tache d'huile. Et donc, je crois que ce type de balade est crucial. Enfin bon, voilà, en toute modestie, j'ai l'impression que c'est important que ça se développe au sein des associations, quoi, des tissus culturels à Liège. Ce que j'ai envie de transmettre, c'est que le merveilleux est vraiment... le merveilleux du végétal, du minuscule, de ces plantes qui ont l'air insignifiantes, qu'on ne trouve pas chez les fleuristes, on les voit là sous nos pieds, dans les pavés, elles sont présentes, elles font tout leur cycle, dès qu'on regarde à la loupe, parce qu'en fait les balades, je prête toujours des loupes, ça coûte 30 euros, et alors le merveilleux apparaît vraiment, c'est comme si on avait un microscope, on voit tout autre chose, quoi. Et donc... voilà ce que j'ai envie de transmettre, c'est qu'on a vraiment besoin d'être sensibilisé. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut être sensible à cette nature qui s'invite et qui était là avant nous et qui a toute sa place en ville. Enfin bon, voilà. Donc, faire passer un message comme quoi les ronces, les orties, les lamiers, les petits sénessons, ce sont des plantes, quand on les regarde de près, qui sont formidables, qui ont énormément de choses... à nous apprendre sur leur chimie, sur leur vertu, leur façon de se reproduire, qui sont toutes différentes. Enfin, c'est un monde, je dirais, magique, quoi. Donc, merveilleux à la portée de tous. Je suis bien conscient de tous ces problèmes, de ces agressions multiples, que ce soit à Arlon ou ailleurs, en Belgique, à Liège, de ces agressions à la biodiversité, aux sauvages. Et donc... je dirais l'étape suivante, il y a celle de donner envie de se former, d'apprendre vraiment à nommer les choses, à reconnaître les interactions du vivant, le monde des plantes et des insectes et des oiseaux, tout ça est lié dans un habitat commun. Et donc, fatalement, pour bien s'impliquer peut-être dans des luttes pour préserver, j'ai l'impression qu'il faut aussi... un minimum d'informations et de confronter un peu ses connaissances et d'aller vers les associations naturalistes comme Natagora et les cercles des naturalistes de Belgique. Je les cite toujours. Il y en a d'autres, mais voilà. À partir de ce moment-là, on a beaucoup plus de conscience, d'ouverture et effectivement, on est plus armé pour se défendre contre les abattages en ligne à Liège, les abattages végétaux, enfin d'arbres, ou bien contre les pesticides, ou contre des zones humides qui seraient remplacées par de l'immobilier, ou voilà, donc effectivement, mais je ne sens pas vraiment, enfin ça peut changer, hein, mais ce besoin d'implication de combat politique. Disons que moi, j'aimerais bien le partager un peu plus, mais voilà, c'est modérément, quoi. Et de toute façon, dans les conversations, il y a cette sensibilité et ce message, il passe indirectement, quoi. Effectivement. Oui, une des balades, c'est le marquage sur les pavés. Et donc, on va reproduire cette idée parce qu'elle me tient à cœur. Cette balade-là de marquage des pavés, elle a lieu le 26 juin, si je ne m'abuse. Et là, donc là, c'est assez spontané, évidemment. Et l'idée, c'est de reconnaître d'abord l'espèce et de modestement, enfin, la marquer au pavé. Et donc, de signaler aux passants et éventuellement au public, quoi, enfin, qu'il existe des plantes, des êtres vivants fragiles qui ont un nom, quoi, qui sont là à nos pieds, entre les voitures, entre les pneus. Bon, voilà, ce sont des êtres vivants qui ont une place, qui ont un rôle dans les relations avec les insectes. Et c'est une façon d'amener un peu de politique, de conscience politique, peut-être, dans les balades. Et puis, peut-être le faire dans d'autres villes. Enfin, il y a d'autres points culture, il y a Namur, Bruxelles, etc., Louvain. Donc, moi, je suis prêt à me déplacer comme ça s'il y a une demande, quoi, si ça s'avère utile. Et alors, une dernière espérance, ben oui, c'est que la ville de Liège soit aussi sensible que les citoyens, enfin, à ces plantes sauvages. Je voyais récemment un poste comme quoi à Spa, il y a un projet de floraison dans la ville. Donc, les chevins de l'environnement annoncent ça, stop. Enfin, on va remplacer les mauvaises herbes par des belles fleurs mellifères. Ouais, moi, j'ai réagi, disons, sur le post Facebook en disant, mais enfin, bon, il faut arrêter de confondre les mauvaises herbes et les plantes sauvages, quoi, parce qu'elles ont toute leur place en ville. Et donc, j'espère petit à petit qu'on soit nombreux à sensibiliser un peu les autorités communales à ce genre de choses, quoi. Laisser la place aux plantes sauvages. Ici, à proximité de l'îlot Saint-Michel, c'est vraiment... Parfois, la nature est très artificialisée, banalisée, donc on ne laisse pas venir la plante sauvage. On va implanter des plantes horticoles qui, à la limite, sont parfois invasives ou pas, hein, mais bon, donnons la priorité aussi aux plantes sauvages indigènes, quoi.
Voilà, donc si vous voulez retrouver ou vous inviter dans les balades végétales, il en reste encore 5 au programme. Alors je vous fais un peu la liste à la Prévert. Donc c'est animé, comme je vous l'ai dit, par le Point Culture de Liège. Ça continue jusqu'au mois de juin. La prochaine, le 17 avril, du côté du Bois des Carmélites. Le 12 mai, mercredi 12 mai, sur les berges du Quai de la Dérivation. Le samedi 15 mai, au Jardin Suspendu de Jonfosse. Le mercredi 9 juin, au Fort de la Chartreuse. Et enfin, le samedi 26 juin, pour une balade marquage de pavés, c'est-à-dire en repérage de la petite flore qui pousse entre les pavés. Alors attention, pour être précis, les places sont limitées, bien entendu, avec les restrictions sanitaires. Et dans les inscriptions, vous les retrouvez sur pointculture.be ou directement en allant sur leur Facebook Point Culture Liège. Et nous, on va partager également tout ça sur notre page Facebook. Comme ça, vous pouvez également la liker. L'erreur est urbaine sur Facebook. Chaque balade est à 5€. Mais ça vaut le coup. Je vous invite à y aller. Dépêchez-vous. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie. On va terminer... D'abord, après une petite musique, forcément, comme d'habitude, mais une dernière partie où on s'éloigne un petit peu, forcément, c'est notre hors-d'œuvre du jour. On va partir avec Diana, puis je vous bouclerai pour parler de quelque chose qui est un peu en retard, qui a 2 mois de retard, mais vous allez voir, on fait à nouveau un petit teasing et on se retrouve après notre prochaine musique, cette fois-ci un truc tout beau, tout neuf. Merci Antoine pour la proposition, j'espère que tu nous écoutes du côté de La Rochelle, où il y a une grosse communauté québécoise justement. On part du côté du Québec, c'est Coton Ouaté de Bleu Blue Jeans, et ça vous rappelle qu'en avril, on ne se découvre pas d'un fil. À tout de suite.
que ça pas l'air chaud chaud, je m'installe debout devant ma bay window pour savoir si c'est une journée de petite laine ou de kiwi. Je me fie sur le passant le moins habillé. C'est là que j'ouvre ma fenêtre et sans me gêner, je lui demande comme si c'était mon bon body. J'y dis hey, fais-tu fret? On est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fret. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Lorsque vous êtes ambigu à propos de votre tenue, regardez les gens défiler dans la rue. Un col en vie, un col roulé, des pardards ou froc doublé. Est-ce une bonne journée pour sortir en bustier? Un pantacourt ou un pantalon, grosse combine ou bien bonne nylon, une bonne paire de Kodiak ou un pas blanc dans vos sandales. On se laisse influencer par comment le monde est habillé. Mais pourquoi espionner en cachette? Y'a pas de honte à faire la blette. Dites hey, faites fret. On est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fret. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Hey, faites fret. On est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fret. T'es-tu bien dans ton coton ouaté?
L'erreur est urbaine sur 48FM, l'erreur est urbaine en association avec justement l'association Urbagora pour parler de ville, d'architecture et d'aménagement du territoire. S'éveiller justement à la ville et au vivant, c'était le thème de notre mois en avril. On voulait parler du printemps et de cette nature qui refleurit et qui refait un peu plus de bruit désormais. Et on termine peut-être un peu hors thématique, quoique Diana voulait justement nous parler des serres, je crois, du jardin botanique. Donc on parle toujours de notre flore à Liège. Je te laisse la parole pour nous présenter un petit peu tout ça.
Merci Alex. Eh bien oui, ville et vivant. Ville et vivant. On a donc parlé de ville et de vivant aujourd'hui, on dirait. Mais à quoi ça rime, au fond, de lier les termes « ville » et « vivant » ? Est-ce à dire que les morts sont persona non grata dans nos cités, qu'il n'y a plus de place que pour celles et ceux dont les chairs et les os frétillent encore, dont les muscles s'obstinent à pulser, d'y entre ? Des cimetières où reposent nos corps redevenus poussière sont pourtant, dans les villes d'antan comme dans celles de demain peut-être, les habitats alloyés modérés d'une autre vie, celle des platanes, des pins, des touffus et feuillus et herbus et champignonus et pétalus de tout poil et de toute patte. Alors, longue vie à nos morts et aux cimetières qui peuvent aussi accompagner les promenades des vivants et des vivantes les plus chanceux lorsque ces espaces continuent par ailleurs, à accueillir quelques spécimens végétaux ou animaux, ce qui n'est plus le cas partout. Hein. Alors, tiens, en parlant de mort, pour celles et ceux qui, comme moi, ont envie de se saigner les veines avec la scie à bois qui a permis aux esprits les plus aventureux, au printemps dernier, de se lancer dans la construction de leur cabane du confinement, il y a déjà un an de cela, dans les bois, dans leur jardin, dans leur... Dans leur salon. Mais non, allez, j'exagère, on ne souffre pas tant que ça, hein, pas autant que nos jeunes enfermés, du moins, j'espère. Bref, si comme moi vous êtes en manque d'évasion, je vous pose cette question. Avez-vous pensé à arpenter le deuxième jardin botanique le plus important de Belgique ? Qui est ? Là, je me la joue un peu à question pour un champion. Qui est
le jardin botanique de Liège ?
Oui, mais lequel ? Lequel, ah. Alexandre ?
Ah, mais je sais pas, j'aurais dit celui...
Tu n'en connais qu'un.
Bah, je n'en connais qu'un, oui, effectivement. J'ai honte.
Allez, d'autres idées ? Personne ?
Celui du sentiment, peut-être ?
Ah, voilà, je reconnais ce fin esprit des lois. Mais oui, qui a toujours l'œil ou l'oreille, je ne sais pas. Mais enfin, peut-être qu'il a entendu l'info dans les médias. Non, même pas. Bien oui, l'Observatoire du monde des plantes du Sartinement. Parce que oui, les jardins botaniques de ce royaume sont bel et bien ouverts et ils habitent toujours nos cités. Alors continuons d'explorer d'autres bulles que celles de nos chaumières fermées. Explorons plutôt celles de verre et d'acier. Pourquoi pas ? Courons nous émerveiller dans d'autres jardins que ceux des nantis. Ah oh là là, j'ai mauvaise langue. Allons explorer les petites bestioles, les petites feuilles, les petits feuillages tout mignons qu'on peut explorer soit au jardin de l'Observatoire du monde des plantes, donc dans les serres de cet observatoire, ou alors dans le jardin botanique de Liège, donc les serres du jardin botanique qui se trouvent au centre-ville. Il y en a pour tous les goûts, en haut et en bas. Peut-être les plus aisés s'aventureront du côté du Sartinement et peut-être que les plus flemmards, comme moi peut-être, iront plutôt se ressourcer au centre-ville de Liège. Et puis, donc allons-y, ils sont ouverts. Il faut prendre rendez-vous bien souvent. Donc, renseignez-vous, regardez les pages Facebook des serres du Jardin botanique de Liège, du centre-ville, et puis la page Facebook de l'Observatoire du monde des plantes, qui appartient donc pour la petite parenthèse, qui est un projet de l'ULiège. Et puis pour celles et ceux que les cabanes du confinement dont j'ai parlé intriguent, rendez-vous dans le prochain numéro de la revue Dérivation, dont le dossier central est intitulé La ville au siècle des limites. Alors la sortie est prévue le 12 avril, donc oui, celui qui vient là, le lundi qui vient. Plus que deux dodos. Et puis, les serres, il n'y a pas que les serres des plantes d'ornement ou des plantes tropicales, des plantes rares. Il y a aussi les serres qui permettent à notre alimentation de pousser, mais ça, peut-être qu'on en parlera plutôt le mois prochain. Ah donc, au mois prochain.
Et merci Diana, et au mois prochain, effectivement, ça c'est magnifique. Moi, j'essaie de teaser depuis avant sur les prochaines chroniques, et toi, tu invites déjà, bravo, merci en tout cas de le faire sur le mois prochain.
T'anticipes. Ça, c'est les femmes, hein. Tu vois, les femmes, elles ont l'habitude d'anticiper et tout.
C'est génial, tu le fais hyper bien en tout cas. Merci pour cette touche. Et c'est vrai que personnellement, je n'avais pas pensé à passer du côté des serres. Déjà, je découvre les serres du sortiment, honte à moi. Je ne connais pas encore l'ensemble de Liège. C'est vrai que je ne mets pas trop les pieds du côté du sortiment, mais en tout cas, je les découvre avec grand joie. Si elles sont ouvertes, en tout cas, je prendrai le temps de les visiter. Donc ça, c'est très, très chouette. Et je pense que c'est un chouette rappel. Tout comme nos musées sont toujours ouverts, les différentes serres sur Liège sont également ouvertes, bien entendu, sur rendez-vous. Mais profitez-en. C'est vrai qu'en ce moment, on reste peut-être un peu plus chez nous. Mais il reste des choses
oui,
à faire.
Ne restons pas chez nous. Ne nous saignons pas les veines. Allons voir les quatre serres de l'Observatoire du monde des plantes. Il y a la serre des enfants, la serre méditerranéenne, la serre tropicale et la serre désertique. Voilà, comme ça, en plus, je vous mets l'eau à la bouche.
directement, on a envie d'y aller en tout cas. Bah, c'est chouette, ça fait un bon complément. D'un côté, on avait Pierre-Charles qui nous invite donc avec le Point Culture à aller également au dehors, dans notre nature en guillemets sauvage de Liège. Et puis, Diana nous invite donc à aller dans les différentes serres de la ville de Liège, au Sartiment et au Jardin Botanique.
Et merci puis, on peut beaucoup. Peut-être même y aller à pied dans ces serres. Et là, on peut. Là, je fais encore un petit lien avec ce dont tu as parlé tout à l'heure. C'est le projet Liège Orbital.
Ouais, tout à fait.
Même peut-être qu'on peut organiser une petite balade qui monte jusqu'au Sartinement.
Et puis, effectivement, la Liège Orbital permet de remonter jusqu'au Sartinement. La carte que vous.
En tout cas, elle passe par Angleur.
C'est ça. Elle passe par
Angleur. Elle ne va pas tout à fait au Sartinement, mais. D'ailleurs, Gilles corrige. Hein, corrige. Hein
non, je n'ai pas la carte sous les yeux, mais récemment, on a fait une balade qui passait par là. Je pense dans l'idée de rajouter sur une éventuelle prochaine carte. A priori, le trajet lui-même de Liège Orbital ne passe pas, en tout cas près des serres de Lulliège, malheureusement. Mais
du centre-ville et des serres du Jardin Botanique, on peut rejoindre peut-être le Terril Piron en montant un petit peu vers Saint-Gilles, puis le Laveux, et puis vers Cointe, là, et puis commencer la balade de là. Ça peut faire une chouette journée anti-dépression.
Tout à fait. Et tant qu'on était dans le teasing, enfin, ou dans l'annonce de ce qui vient, dans le cadre du festival Nourrir Liège, on est en train de mettre au point une balade qui se fait plus ou moins sur les trajectoires dessinées sur la carte Liège Orbital, mais qui se penche surtout sur tous les endroits, tous les lieux de l'agriculture urbaine, avec une perspective historique sur la chose et des projets tout à fait nouveaux, comme des forêts-jardins et autres. Donc, n'hésitez pas à aller regarder dans le programme de Nourrir Liège, parce que cette balade sera faite avec commentaires en fin de festival, mais sera accessible pendant tout le festival pour toute personne qui veut la parcourir de son côté, puisqu'elle sera balisée pendant la durée du festival. Voilà.
Et puis on le rappellera le mois prochain, hein.
Effectivement, puisqu'on va parler de ville et d'agriculture et qu'on va... bien entendu, parler de Nourrir Liège dans cette prochaine émission au mois de mai. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations, pour toutes ces invitations. On a de quoi faire finalement sur Liège à observer, à découvrir et à découvrir cette nature pour aussi sensibiliser à la préserver. Gilles en parlait, ce n'est pas uniquement l'idée de planter des arbres de manière fonctionnelle, c'est aussi de protéger cette nature qui existe tout près de nous, tout près de chez nous. On peut la voir par beaucoup de fenêtres en observant les parcs, les coteaux et d'autres endroits un peu plus sauvages, un peu plus délaissés, de ces friches de part et d'autre, le long des canaux, le long de la Meuse, qui nous permettent d'avoir des points de respiration et qu'il est important, je pense... nous pensons de préserver. Merci beaucoup, chers chroniqueurs et chères chroniqueuses,
Merci Alexandre
pour toutes ces invitations. On termine, on va faire une avant-dernière aparté musicale et on va vraiment passer dans notre partie hors d'œuvre, des petites séances de rattrapage et en même temps petites informations qui tombent et qui sont d'actualité. Et pour ça, on fait une petite pause avec Tears for Fears, Mad World. On a parlé un peu aujourd'hui, effectivement, de ce monde fou. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Frightened to live for their daily races. Go back. Retour dans l'erreur est urbaine sur 48 FM, l'erreur est urbaine en association avec l'ASBL Urbagora. On parle de ville, on parle de territoire, on parle d'architecture. Et là, on parlait tout particulièrement ce mois-ci de ville et de vivant, de notre nature tout près de chez nous qui se mélange à notre ville et qu'il est important de préserver. Néanmoins, on est dans la dernière partie de l'émission, c'est hors d'œuvre, donc on fait un petit pas de côté et on parle un peu, c'est des sessions de rattrapage et des actualités qui viennent de tomber, qui ne sont pas forcément en lien avec la thématique, mais qui nous paraissaient importantes d'évoquer. Et déjà, dans un premier temps, je voulais vous parler, c'était, comme je vous ai dit, une séance de rattrapage, parce que ben, l'enregistrement que je vais vous présenter, il date un petit peu. Puisqu'il devait s'inscrire dans notre émission du mois de février, Ville et Culture, que je voulais d'abord le rattraper pour le mois de mars, mais on était en vacances, donc vous l'avez pour le mois d'avril. Mais bon, c'est pas grave, vous l'avez tout de même avec certes un peu de retard. Donc pour vous présenter, dans le train qui m'a emmené dernièrement à Bruxelles, il y a quelques semaines donc, je suis allé voir Aurélie, qui comme pas mal de gens durant les confinements, on peut dire maintenant, a eu, ben, comme beaucoup de monde, une chouette idée. Aurélie est actrice et se retrouvant dans une capitale sans art ni culture, s'est dit que ce serait pas mal de lui refaire une petite place et bien dans l'espace public gratuit et accessible à toutes et tous. Le projet, lancé juste avant Noël, il s'appelle Postscriptum. Ce sont des stickers posés partout dans Bruxelles que l'on flash avec un QR code et qui nous invitent à écouter une musique, un poème, un texte.
Ok, bah, je suis Aurélie Alessandroni, je suis actrice. Pour le projet dont on va parler, je me présente sous l'artiste Sidonial. Et en tant que Sidonial, j'ai fait ce projet qui s'appelle les Postscriptum.
Comment s'est lancé ce projet Postscriptum ? Déjà, pourquoi ce nom et comment c'est venu ?
C'est venu avec le confinement, comme plein de trucs super chouettes pendant le confinement. Comme on se retrouve chez soi face à une situation qui n'est pas forcément plaisante ou qui enrage ou qui plein de choses, ça génère forcément des choses à l'intérieur et c'est ce que ça a fait pour moi en tout cas. D'abord, ça, c'était une rage de me rendre compte que ce qui se passait, c'est qu'on était tous enfermés chez soi, qu'on n'avait plus le droit de sortir et que si on sortait, c'était pour aller que d'un point A à un point B et c'est tout. Et ça, je me disais, mais ça va pas, on peut pas déserter la ville comme ça, quoi. C'est par la joie que quelque chose peut changer aussi. Et vu que j'avais envie de changer des choses dans cette situation, je me suis dit, ah, mais en fait, il faut retrouver un peu de joie et de plaisir, et c'est par là qu'on va trouver une solution. Donc voilà, c'était ça que je voulais apporter. Et donc, je sais pas comment, ça a commencé à venir dans ma tête, je me disais, j'aimerais bien que les gens, ils se posent et ils aient un moyen d'entendre une musique. Et donc, du coup, je me disais, j'aimerais trop que ce soit du son, comme on fait. Et avec une amie, Tine, on a réfléchi, et elle me dit, ah, mais peut-être que ça pourrait être chouette que tu fasses une sorte de QR code. Puis après, petit à petit, j'ai commencé à dire, ah, mais non, en fait, des stickers. Enfin, du coup, il y a un palmier qui est associé à ça, de Postscriptum. Je trouvais que c'était pour aller contre tout, c'est-à-dire qu'on était dans la ville, donc c'est pas du tout le palmier. C'était aussi, genre, les vacances qu'on n'a pas eues. Et puis, Postscriptum, c'est parce que je trouvais ça beau. J'adore les PS en fin de lettre, parce que je trouve qu'ils, des fois, ils disent peut-être des fois plus que ce qu'il y a dans la lettre. Donc voilà, donc il y a des chansons, il y a des poésies.
Il y en a un ici.
Un beau palmier.
Le rose.
Bah, il y a eu cette idée et puis tout de suite j'ai pensé à des amis parce qu'autour de moi, comme je suis comédienne et je fais du chant, j'ai des amis qui sont chanteurs, écrivains, écrivaines, voilà. Je les ai contactés parce que j'avais besoin d'entendre si eux ou elles seraient d'accord. J'ai aussi contacté d'autres amis qui écrivent en leur disant ce serait bien que vous fassiez des textes si ça vous dit qu'ils soient engagés plus ou moins par rapport à ce qui se passe. Je leur ai donné des thématiques, politique, poésie, beauté. Parce que ce que je voulais, c'était qu'on revoie du beau à l'intérieur, remettre le beau en valeur à l'intérieur de la ville. J'ai commencé à dessiner en parallèle ce que j'imaginais du stickers. J'ai contacté une amie d'amis qui s'appelle Charlotte Lipinois et elle était emballée, elle a fait ça bénévolement. En parallèle, je me disais que j'aurais bien voulu que ce soit vu par le plus de personnes possible. Parce que comme c'est un art éphémère, puisque c'est un stickers collé sur un poteau, ça va pas durer 1000 ans, quoi. Puis c'est un QR code, donc... Je me suis dit, bon, bah voilà, le but, c'est que ça se propage. Et puis, évidemment, énormément de travail de montage, parce que j'ai voulu faire à chaque fois cette petite intro qui était une plage avec des oiseaux où on entend pour pouvoir faire se plonger les gens dans cette ambiance.
Bienvenue sur les post-scriptum. Écoutes urbaines pour brèches réflexives.
Bah après, une fois que c'était fait, bah impression. Et une fois qu'on a réception de l'énorme colis, bah il faut mettre ça partout dans la ville. Il y a 6 post-scriptum, donc chacun des palmiers a une couleur différente. Et l'idée, c'était de tracer des couleurs, des zones de couleurs, pour pas qu'il y ait tout au même endroit, parce que le but, c'était d'inviter les gens à se déplacer. Que ce soit un peu une chasse, quoi, un jeu de piste. Si jamais t'as envie de jouer vraiment le jeu, ça peut être marrant de se dire « Vas-y, j'en ai trouvé 3, il m'en faut encore 3, quoi. » À partir de là, j'ai envoyé un mail à plein d'amis en disant « Est-ce que ça vous dit de m'aider à mettre des stickers ?» Et puis, il y en a plein qui ont dit « Oui, on est à fond pour t'aider. » Donc voilà. Et donc après, ça fait des petites équipes. Je leur ai donné 10, 20, 30, 50, ça dépend des personnes, autocollants à mettre, et puis en fonction de leur quartier, des lieux. Puis moi-même, j'ai aussi pris mon vélo et j'étais pas mal à Molenbeek, par exemple, à des endroits où, pour moi, c'était important qu'ils y soient, quoi. En tout cas, j'avais dit que j'aimerais bien qu'en un week-end, la plus grosse partie soit faite. Et c'est ce qui s'est passé.
Donc il y a plusieurs couleurs, c'est ça?
Ouais.
Donc là, le rose, c'est le
6 sur 6.
Ok. Et donc, tu prends ton petit téléphone.
Mm-hmm. Tu le diriges. Soit si t'as un iPhone qui le fait directement quand tu montes, il t'emmène directement sur le site, soit tu dois prendre l'application si t'as un téléphone Android. Et puis après tu scannes et puis hop.
Et t'arrives sur le site.
Détendez-vous. Je vous propose un petit podcast en écoute libre. Texte pioché en philosophie, poésie, écrit inventé sur la beauté. Chansons qui font chaud à l'âme. Ce podcast a été créé pour vous, dans le but de recolorer la ville, faire réémerger l'art, garder vos cerveaux agiles en toutes circonstances. Allez, bonne écoute.
Et oui, ils sont encore là, donc ça c'est gay. Et la suite... Bah, en fait, ce qui est trop bien, c'est que il y a eu énormément de bouche à oreille, enfin de liens Facebook, tout ça. Du coup, ça, c'est, l'information s'est très fort partagée. Et donc après, c'est les journalistes qui sont venus à moi. Et c'est cool parce que ça fait que les gens le voient. Mais du coup, la suite, c'est qu'il y a eu des très bons retours, les gens étaient très contents, c'était le but. Donc ça, c'est gagné, quoi. Mais j'ai une pote qui habite à Paris et un pote qui habite à Londres. Et les deux, et à un moment donné, on s'était dit qu'on aimerait bien, et une autre à Lyon aussi, on s'était dit qu'on aimerait bien que ce projet aille dans ces villes.
Voilà, donc c'était Post-Scriptum de l'artiste Sidonie Hall, à retrouver, ben, pas forcément à un endroit précis, à retrouver un peu partout dans Bruxelles. Donc, comme je disais, Post-Scriptum par Sidonie Hall, c'est de l'art urbain libre, accessible et qui permet peut-être d'avoir un regard différent sur l'espace qui nous entoure. Et comme c'est de l'art libre, dépêchez-vous parce qu'il n'est que temporaire. Donc voilà, je ne sais pas si certains qui sont déjà allés dernièrement sur Bruxelles ont peut-être repéré déjà ces petits stickers. Je crois que Gilles a quelque chose à ajouter. Peut-être que tu en as déjà vu en passant sur Bruxelles.
Non, malheureusement, je les ai loupés. Pourtant, je suis passé à Bruxelles pour toute autre chose. Mais ça me fait assez fortement penser aux clameurs d'un roman de science-fiction d'Alain Damasio, qui est un auteur que j'adore aussi, où le principe, là, c'est pas de devoir flasher quelque chose avec son appendice technologique smartphone, mais c'est des petits endroits qui... au passage de quelqu'un, diffuse des petits appareils qui, disséminés dans la ville, diffusent effectivement, mais en vrai, là, du coup, un texte ou une musique, souvent à connotation politique, et où il en fait vraiment un outil de résistance, ce qui pourrait être le cas de ces stickers là où il y a vraiment manifestement une volonté de la part de l'artiste d'y mettre un contenu aussi revendicatif et éventuellement politique, voilà. Mais intéressant comme initiative en tout cas, mais avec le petit bémol pour moi que, en tout cas, moi je n'y aurais pas accès puisque j'ai choisi de ne toujours pas avoir de smartphone. Voilà.
Effectivement accessible à tous, mais dans la limite d'avoir un smartphone. Alors si je ne dis pas de bêtises, on mettra également les liens sur notre page Facebook, L'Erreur est Urbaine. On peut retrouver directement sur le site en passant donc par ordinateur. On peut retrouver l'ensemble des petits podcasts qui ont été produits avec l'idée que justement ils sont peut-être renouvelés par la suite avec d'autres artistes qui s'y ajoutent et qui remplacent les anciens et peut-être comme elle le dit après Bruxelles, pourquoi pas Lyon, Paris, Londres et pourquoi pas Liège si des personnes prennent l'inspiration.
J'ai un copain qui essayait de se demander comment on pourrait bricoler des clameurs là en l'occurrence
on va lui lancer le relais.
Voilà.
Chouette. En tout cas, n'hésitez pas. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, puisque effectivement, c'est de l'art plutôt éphémère, que c'est planté à droite, à gauche, sur des lampadaires, des poubelles, sur des bancs, sur des panneaux d'affichage publicitaire. Je pense que ça peut faire un autre écho également par rapport à ça. Mais peut-être petit à petit, ils vont, comme notre nature... fané avec l'automne, disparaître pendant l'hiver avant de revenir sous une autre forme. Mais en tout cas, peut-être que ce sera une manière de visiter Bruxelles différemment et peut-être bientôt Liège aura également ses stickers à poser à droite, à gauche dans la ville. Je ne sais pas si un dernier mot de la fin de la part de l'un ou l'autre de nos chroniqueurs. Alors si... Ah si, Baudou.
Pas parce que tu le fais si bien. Tu es parti dans un moment, on t'écoute.
D'accord. Donc c'est moi qui ai le mot de la fin. En tout cas, un tout grand merci à toutes les personnes présentes pour cette émission du retour du printemps. On aura le plaisir de se retrouver donc le mois prochain pour parler... Alors, c'est pas de vivant directement, mais de ce qui nous nourrit, de ville et d'agriculture, puisqu'on va parler notamment de Nourrir Liège, le festival sur cette thématique-ci à Liège, qui sera donc au mois de mai. Peut-être, Gilles, as-tu les dates précises en tête, ou sinon, on les retrouvera et on les diffusera sur le site?
Du 6 au 16 mai, si je ne me trompe pas, Diana me corrigera éventuellement, elle les connaît aussi, elle a peut-être une meilleure mémoire des dates que moi, mais préciser que le thème du festival de cette année, c'est alimentation et précarité, voilà. Et vous retrouverez tout le programme soit sur le site de Nourrir Liège, soit à mon avis dans peu de temps dans des programmes qui devraient être disponibles dans les espaces publics pour autant qu'on y aille. Voilà tout ça.
Et bien entendu, nous, on le diffusera sur notre modeste page Facebook. Mais n'hésitez pas à augmenter la taille de notre communauté sur L'Erreur est Urbaine. Et vous retrouvez ensuite également les émissions sur le site internet. N'hésitez pas à les suivre sur urbagora.be et sur la page Facebook, tout simplement, Urbagora. Merci à toutes et tous, en tout cas, d'avoir été présents. On était un joli nombre. Je remercie également nos nouveaux arrivants, Gilles et Clem qui a déjà dû partir, mais je les remercie du fond du cœur pour leur présence et pour leur ajout dans cette émission. Jojo était présent pour nous écouter, mais je sais qu'il était également avec nous pour suivre tout ça de près et qui est notre technicien. Donc un tout grand merci à toi également pour toute la gestion technique pour laquelle tu prends le relais. Merci beaucoup et merci Eloi, merci Baudouin et merci Diana. On se quitte également, comme toujours, en musique avec le mot de la fin pour des Liégeois. C'est Julie Mosset et Greg Houben. Ça s'appelle Au bord de l'eau. On écoute ça tout de suite et nous, on se retrouve le mois prochain, deuxième samedi de 10h à midi. Gros bisous à toutes et tous, bon appétit et à bientôt. Ciao, ciao.
passer.